Bonjour à tout le monde. J'ai à cœur ce matin de vous partager des textes de la Bible pour peut-être nous faire découvrir que notre Dieu, celui que nous avons chanté et prié là, est un Dieu bienheureux. J'ai à cœur de nous encourager à vivre avec ce Dieu bienheureux. Et pour ça, je vous propose de lire le texte premier de la Bible, c'est-à-dire le premier chapitre de la Genèse. Ce sera le premier texte que nous lirons pour découvrir le bonheur de Dieu au jardin d'Éden, mais aussi le bonheur de l'homme. Donc, si vous voulez ouvrir la Bible à la première page, je vais lire des extraits, je passerai au fur et à mesure. En ayant confiance que le Seigneur utilisera sa parole. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que c'était bon. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques et le jour des années. Et fin du verset 18. Dieu vit que c'était bon. Et au verset 20. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Cela se passa ainsi. Fin du verset 25. Dieu vit que c'était bon. Verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. C'est ainsi que furent terminés, au chapitre 2, le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour et Dieu bénit le septième jour. Verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du ciel. Et l'Éternel façonna l'homme comme la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y eut l'homme qui y avait façonné. On va s'arrêter là. Tout d'abord, on voit dans ce texte déjà la personne de Dieu en plusieurs dimensions. Au commencement, le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot Dieu en hébreu, c'est Elohim, qui est déjà une forme plurielle du mot Dieu. Il y a une grande, à la fois, complexité, un grand mystère, mais aussi un enseignement à trouver dans les noms de Dieu. Et on voit en tout cas là que Dieu se présente sous une forme plurielle, et que l'on voit d'ailleurs tout de suite après, puisque dès le verset 2, on voit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 4, verset 5, pardon, du chapitre 2, il est dit, non pas lorsque Dieu fit la terre et le ciel, mais il est dit lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. C'est un autre nom de Dieu, l'Éternel Dieu, c'est Yahvé en hébreu, le nom que les Juifs ne prononcent pas, le tétragramme est fait de quatre lettres en hébreu. Et c'est un nom qui veut dire « je suis ». Je suis aujourd'hui, hier je suis et demain je suis. Et c'est pour ça qu'on l'a souvent appelé l'Éternel. Comme un nom de Dieu, l'Éternel. Éternel dans le passé, éternel dans le futur. C'est le grand « je suis » que Jésus a utilisé avant qu'Abraham fût « je suis ». Et on peut voir dans ce nom une première évocation du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Et il est étonnant de voir dans Proverbe 8, quand il y a une évocation au verset 30, même 29, de la sagesse, et qui dit, par exemple, on sait au verset 29, « Lorsque Dieu a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, c'est ce qu'on a lu, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. » Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite après ? « Je faisais tous les jours son plaisir. J'étais toujours en joie devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. » On voit donc que cette dimension de Dieu qui se présente, suite dans la révélation biblique, comme Dieu un en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, était là et vivant une joie intense et permanente. Et on le voit, je trouve, dans cette création de Dieu où il est si souvent répété « Dieu vit que c'était bon ». Et puis à la fin de la création, à la fin du sixième jour, il prend un temps de recul, on pourrait dire, avec tout le respect qu'on doit avoir pour la personne de Dieu, et il regarde, et puis il dit, c'est vraiment très bon. Et il se repose le septième jour. Satisfait de ce qu'il avait créé, trouvant que c'était très bon. Et c'est ce bonheur de Dieu que je voudrais souligner ce matin. Et nous remplir de cette joie permanente qu'a Dieu, j'allais dire qu'avait Dieu dans l'éternité passée. Quand la sagesse de Dieu en Proverbe 8 dit « J'étais toujours en joie devant lui, je me réjouissais pleinement. » Quand Dieu crée, il trouve que c'est bon ce qu'il a fait. Et j'aime beaucoup aussi au verset 3, au chapitre 3, au verset 8, donc c'est après ce qui s'est passé, on va en parler tout de suite, mais on voit au verset 8 que Dieu est en train de parcourir le jardin au soir, et plusieurs traductions disent au frais du jour. On voit que Dieu se promenait le soir au frais du jour, comme on aime se promener dans un jardin au frais du jour, quand la température n'est ni trop froide ni trop chaude. Prendre plaisir à la création de Dieu. Il se promenait au frais du jour. J'aime beaucoup cette évocation de Dieu. parce qu'il faut prendre le temps, calmement, de nous laisser impressionner par la joie profonde de Dieu. La joie paisible, la joie profonde de Dieu, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je lis ces quelques versets, cinq premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous en mangerez, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez pas, c'est certain. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Le verset 23. Ainsi l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden Adam et Ève pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été tiré. Et après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arc. L'homme et la femme ont cru cette question de Satan. Quoi ? Dieu a dit ? Mais vous savez, il y a un bonheur que Dieu vous refuse. Parce que Dieu le sait très bien, quand vous aurez mangé, vous aurez les yeux ouverts. Mais Dieu ne refusait aucun bonheur. Il voulait au contraire le bonheur total. Il voulait continuer de se promener le soir au frais du jour pour parler avec Adam et avec Ève. Il voulait continuer de vivre ce bonheur intense qui était en lui et qu'il avait voulu partager et qu'il a partagé un temps avec l'homme et la femme. C'était son grand projet de partager ce bonheur intense. L'homme a cru le serpent qui lui dit, oh mon Dieu, de refuser au moins une petite partie de ce bonheur. Donc, écoute-moi, la conséquence, on la connaît. Mais heureusement, Dieu a tout fait pour retrouver. Renouer ce bonheur. Je vais demander à mon ami Lorenzo de me rejoindre avec moi. Dans Romains, chapitre 5, alors qu'il y avait une rupture de relation entre Dieu et l'homme, il nous est dit, Romains 5, verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Lorsque nous étions encore ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Dieu voulait continuer de vivre ce grand bonheur, de partager ce grand bonheur profond, intense qui est en lui. Il voulait continuer de le vivre et il a envoyé son Fils pour, par sa mort, nous réconcilier. Je vous propose qu'on lise une belle histoire qui image complètement cela, l'Ancien Testament étant là pour nous instruire sur ce que Jésus a fait beaucoup plus tard. Et je vous propose qu'on lise, Lorenzo et moi-même, 2 Samuel 9. C'est une histoire, c'est tout un chapitre qui fait 13 versets. Je vous propose qu'on lise, je trouve que c'est une très belle illustration de Dieu qui veut vivre ce bonheur et nous faire cette grâce de nous accueillir avec lui. l'époque du roi David dont Jean-Baptiste a parlé tout à l'heure, ce roi qui était le roi selon le cœur de Dieu, un roi qui avait une grande autorité et qui avait appris beaucoup de Dieu dans une période d'avant qu'il soit roi, où le roi précédent lui avait fait toutes les misères possibles, jusqu'à essayer plusieurs fois de le tuer. Et ce roi, David, il était très ami avec le fils de ce roi précédent, qui s'appelait Jonathan. Et au moment où il était roi, pleinement rempli de cette autorité de roi, il a envie de faire du bien à la descendance de son ami qui lui-même était décédé. Je commence la lecture de la parole de Dieu. David, dans 2 Samuel 9, David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tziba, que l'on fit venir vers David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tziba ?»
Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ? Tziba répondit au roi, et il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Où est-il ? Demanda le roi. Tziba répondit, il est chez Makir, fils d'Admiel, à Lodebar. Alors le roi David envoya chercher chez Makir, le fils d'Admiel, à Lodebar. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth ?» Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et
tu mangeras toujours à ma table. »
Mephibosheth se prosterna et dit, « Mais qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tziba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître,
mangera constamment à ma table. »
Or Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à ton serviteur. » Mephibosheth
mangea donc à table de David comme s'il était l'un des fils du roi.
Il y avait un jeune fils du nom de Mika et tous ceux qui habitaient chez Tziba étaient à son service. Mephibosheth habitait à Jérusalem car
il mangeait constamment à la table du roi.
Et il était estropié des 2 pieds. Merci. David, dans cette histoire, représente le Christ. On l'a vu, c'était le roi selon le cœur de Dieu. Et Jésus se dénomme, et on l'a souvent dénommé, le fils de David. Mephibosheth, nous le comprenons, représente des hommes et des femmes comme nous, qui sont parfois handicapés physiquement, mais parfois handicapés aussi de l'intérieur. Et que Dieu appelle, ce sont des femmes qui ont été touchées, des hommes touchés par le péché, parce que Adam et Ève ont écouté le serpent et ont cru qu'il y avait un bonheur que Dieu nous refusait. Et Mephibosheth représente pleinement ces hommes et ces femmes que nous sommes, qui sont incapables d'aller vers Dieu si Dieu n'était pas venu vers nous. Si Dieu n'avait pas envoyé son propre fils et ne s'était pas occupé lui-même de notre propre réconciliation avec lui, la plupart des personnes ici, je crois, ont accepté de se réconcilier en croyant que la mort de Jésus-Christ, en ayant payé le prix du péché, nous a réconciliés avec le Christ et avec Dieu. Et alors, je vous invite, je nous invite à profiter pleinement de cet accueil que David a fait à Méphibosheth. Je trouve cette histoire extraordinaire dans la volonté de David de faire du bien. Je veux user envers lui d'une bonté de Dieu. Je veux lui faire du bien. Ce Dieu bienheureux qui veut partager son bonheur. La voix de Lorenzo a insisté sur le fait que 4 fois dans ce petit chapitre, il est dit « Méphibosheth mangeait à la table du roi ». Ça veut dire quoi « manger à la table du roi » ? Tous les jours, ça veut dire écouter le roi dans toutes ses discussions. Ça veut dire être là quand le roi se réjouit. Ça veut dire aussi être là quand le roi en a assez d'une situation difficile et qu'il partage ça avec ses serviteurs et ses ministres. Ça veut dire écouter le roi quand il a aussi des problèmes de famille et qu'il est attristé par ceci ou cela, ou réjoui par l'attitude de ses enfants. Ça veut dire peut-être aussi donner des conseils au roi. Ça veut dire être là, toujours. Si le roi invite en permanence quelqu'un, ça veut dire qu'il s'ouvre totalement à lui. Il y a des fois où j'ai envie d'inviter des gens chez moi, et il y a des fois où j'ai beaucoup moins envie. Quand je ne vais pas forcément bien, quand je suis en souci, voilà, fatigué ou autre. Là, c'est porte ouverte tous les jours, Méphibosheth, tu seras toujours avec moi. Imaginons cela dans notre relation avec notre Dieu. Notre Dieu recherche avec nous cette constante relation, cette intimité. Il est transparent avec nous. Méphibosheth mangeait constamment à la table du roi. Et je m'imagine David comme un roi généreux, un roi hospitalier qui est heureux de voir tous ces gens à sa table. Non seulement de leur faire plaisir, mais ça lui fait plaisir qu'ils soient là. Pensons-nous parfois que ça fait plaisir à Dieu de vivre avec nous? On pense très souvent au plaisir que nous faisons à Dieu. Je lui fais plaisir par ce que je fais, par ce que je suis. Mais la seule présence, notre seule présence avec Dieu fait plaisir à Dieu. C'est cette forme de disponibilité que Dieu attend de nous, d'être juste là, à sa table. Juste profiter qu'il soit là, lui. Juste profiter de sa présence. On a chanté ça tout à l'heure, on va chanter un autre chant bientôt, sur la présence de Dieu. Et de dire simplement, Dieu, être avec toi, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas le plus important. Être avec toi, je sais que ça te fait plaisir. Dieu est heureux comme David l'était à sa table en voyant les invités qu'il avait choisi d'inviter. Et Dieu était heureux comme le Dieu bienheureux. Le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Et j'aimerais terminer en lisant dans le Nouveau Testament, c'est le dernier verset de la 2e aux Corinthiens, qui est une salutation. Et petit à petit, nous passerons au temps de scène. De Corinthiens 13. Dieu nous appelle à vivre une vraie communion comme David la vivait, comme Méphibosheth la vivait avec David tous les jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus, cette grâce que David a manifestée, Méphibosheth n'avait rien à revendiquer et même c'était un miracle qu'il soit encore vivant. Parce que souvent les fils des rois et les petits-fils des rois, quand un autre roi arrivait qui n'était pas de sa famille, ils étaient passés par le fil de l'épée. Et c'est encore plus admirable que le roi lui-même va le chercher là où il était, chez quelqu'un, parce qu'il ne pouvait pas se suffire à lui-même. Et il dit, viens, le roi te cherche, le roi veut que tu le vois. Et c'est pour te faire du bien. Ça, c'est la grâce de Jésus-Christ. Laissons-nous toucher par la grâce de Jésus-Christ. Que l'Esprit, laissons le Saint-Esprit nous toucher par cette grâce de Jésus-Christ. C'est ce qu'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure. Ce Dieu qui veut venir vers nous. Pensons peut-être qu'il y a des choses à régler, qu'on doit être saint devant Dieu, etc. Mais laissons-nous d'abord toucher, laissons-nous convaincre parce que Dieu veut que nous vivions avec lui. Par la grâce de Jésus-Christ. Et ensuite, que l'amour de Dieu, ce Dieu qui est plein de bonheur, et qui veut nous donner ce bonheur. Ce Dieu qui voulait, c'est ça l'amour. Dieu est amour et l'amour, il n'a de sens que s'il est donné à d'autres. Et c'est ce que Dieu a voulu faire en créant Adam, puis Ève, puis toutes les autres hommes. Et puis il y a le Saint-Esprit qui vient nous faire vivre la communion, pour pouvoir communier avec Dieu. Et communier les uns avec les autres, mais avec Dieu. Ça n'aurait pas de sens d'être en relation avec les uns avec les autres si nous n'étions pas tous en communion liés avec Dieu. Si Dieu n'était pas en nous, comme Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous sommes en Christ. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Moi en vous et vous en moi. Je prie que Dieu, par son Esprit, nous fasse vivre cette communion avec lui. Et alors j'aime bien me représenter, et nous allons vivre le temps de scène avec ça. C'est un petit peu, je vais là pour. J'aime bien me représenter Dieu, le Fils, le Père et le Saint-Esprit avant la création, comme le dit Proverbe 8, qui étaient toujours en joie les uns avec les autres. Un peu comme s'ils dansaient les uns avec les autres, tout le temps. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, comme si un jour ils ont dit, mais dans la danse, on pourrait faire créer un homme qui puisse comprendre mon amour, comprendre notre amour, comme Dieu l'a dit, faisons l'homme, c'est au pluriel, à notre image, faisons entrer l'homme dans la danse, faisons-le danser avec nous. Et l'homme, un certain temps, est venu et a dansé. Ils étaient trois, puis ils ont été quatre à danser, cinq avec Ève. Et ils ont été un petit moment cinq à danser. Et puis Adam et Ève, on ne sait pourquoi, si ce n'est d'avoir écouté le serpent, ont quitté la danse. Ont quitté ce bonheur intense que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit avait. Ils ont quitté la danse. Et Dieu s'est retrouvé à trois à danser. Ça n'a rien changé à son bonheur profond. Mais pourtant, son projet avait été altéré. Son projet d'amour avait été altéré. Et alors, au bout d'un long temps, qui nous a paru long dans l'histoire de l'homme, Dieu a dit, donc, parmi les trois, il y en a un qui va partir de la danse. Et il va se faire homme. Il va aller rechercher les hommes. Il va aller mourir pour nous réconcilier. Et alors, quelque part, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais on pourrait dire qu'ils ont été deux à danser. Un tout petit moment, ça a duré 30 ans.
aux yeux de l'éternité. Et ils ont dansé qu'à deux. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, Jésus est parti. Et puis pendant ce temps-là, il a revêtu sur un corps, sur une personne divine, le corps d'un homme. Mais alors, quelle joie! Quand il a été ressuscité, qu'il est monté au ciel, il s'est remis à danser. Et à ce moment-là, tous les hommes ont pu venir. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont pu venir danser avec lui. Et nous pouvons danser, vivre ce bonheur intense. Et je crois que nous devrions nous remémorer souvent ce bonheur que le Fils a donné à son Père quand il a permis aux hommes de revenir vivre le bonheur avec lui. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon plaisir. Et j'aimerais que, aujourd'hui, dans le temps de scène, nous puissions non pas nous distribuer la scène entre nous, mais que nous puissions, quelque part, c'est un symbole, venir vers Dieu. Que nous puissions, comme la parole le dit, nous approcher de la table du Seigneur. Venir vers le Dieu bienheureux. On parle pas souvent de notre communion entre nous. Là, j'aimerais bien que ce matin, on vive, comme le dit aussi l'Épître aux Corinthiens, qu'on vive intensément, chacun faisant peut-être un effort de méditation. La communion en prenant le pain, la communion au corps du Christ. Et en prenant le vin, la communion au sang du Christ. Vivre par l'Esprit cette communion intense avec le Dieu bienheureux qui en Jésus-Christ nous a fait grâce. Je vous propose un moment d'abord de silence. C'est-à-dire, je vais m'approcher du Dieu bienheureux. Je vais communier en prenant ces symboles. Je vais dire, oui Seigneur, tu m'as accueilli comme le Dieu bienheureux. Comme Dieu bienheureux, tu m'as accueilli. Et je vis avec toi une communion intense. Je propose un temps de silence. Et ensuite, j'indiquerai la manière de faire. Celles et ceux qui auraient du mal à se rencontrer ce Dieu de bonheur, ce Dieu bienheureux, à prier Dieu qu'il se révèle à eux, à celles et ceux qui voient plutôt un Dieu sévère, qu'il est réellement, il n'est pas que ça, à celles et ceux qui voient plutôt un Dieu qui est difficile d'honorer, à qui il est difficile de faire plaisir, de voir le visage de David, le roi, à sa table, heureux d'être avec ses invités, ayant choisi d'inviter Mephibosheth. Que Dieu se révèle à eux. Dieu est un Dieu saint et aussi un Dieu heureux. Vous êtes les musiciens prennent place pour chanter la mélodie du chant. En disant cette parole tous ensemble, celle qui est écrite à la fin, « Je veux vivre cette intimité avec toi, le Dieu bienheureux, par la grâce reçue en Jésus-Christ. » Et prendre ensuite le pain et le vin pour montrer notre communion au corps du Christ, notre communion au sang du Christ, et vivre par l'Esprit la communion du Saint-Esprit. Et ensuite, nous pourrons rechanter ce chant. Je propose de dire tous ensemble, avant de prendre les éléments, la phrase qui est ici. Je veux vivre cette intimité avec toi, le Dieu bienheureux, par la grâce reçue en Jésus-Christ. Oui, on peut donc rechanter le chant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime le Saint-Esprit qui révèle le Père. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, adorons le Dieu bienheureux.